France Inter, le 18-20.
On leur a donné un nom, figurez-vous, on les appelle les enfants boomerang, ceux qui reviennent chez leurs parents. Alors bien sûr, il y a les moins de 30 ans qui n'ont pas d'autre choix que de revenir entre deux stages, qui n'ont pas abouti sur un boulot. Mais non, là on parle plutôt d'après 40 ans, voire après 50 ans, un accident de la vie, un chômage brutal, un divorce compliqué, l'économie indispensable d'un loyer parce qu'on a encore un enfant à charge ou plusieurs. Le chômage des plus de 50 ans, n'oublions pas, a augmenté de 10% en 2016. Le retour chez les parents, ben parfois c'est la seule solution et c'est de moins en moins marginal. Et vous revoilà dans votre chambre d'enfant. Parfois, j'imagine que ça fait tout drôle, dans la chambre d'amis, dans le meilleur des cas, c'est pas si simple non plus, encore moins simple sur le canapé du salon. Ce sentiment de retour en arrière, d'avoir raté quelque chose, il est parfois douloureux. Il peut être aussi fluide et nous faire re-réfléchir peut-être à une solidarité familiale de retour, parce que les temps sont durs pour tout le monde, mais une solidarité familiale au fond qui serait à l'envers, puisque ce sont les plus vieux qui aident les plus jeunes. Viens chez moi, j'habite chez mes parents à 50 ans, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Jérôme, bonsoir et soyez le bienvenu. Jérôme, c'est vous le premier.
Oui, bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. En fait, je voulais revenir sur cette situation parce que d'abord j'ai 47 ans, donc je me sens concerné par la tranche d'âge, pas précisément par la situation. Mais en fait, cette situation, elle est liée à notre génération, qui sont les enfants des baby-boomers, qui pour la première fois dans l'histoire de notre société, connaissons de manière globale une situation économique moins favorable que celle de nos parents. Et c'est inédit depuis que la société a fortement évolué au niveau de la croissance. Et cette situation est liée de manière intrinsèque à l'inégalité et la répartition des richesses, et elle va s'aggraver avec la génération qui suit. Donc c'est fondamental dans la société, et c'est vraiment un problème que vous soulignez ce soir, parce que c'est la pointe émergée de l'iceberg qui cache un problème très profond.
Vous, c'est pas votre cas, Jérôme, ou pas?
Non.
Mais est-ce que vous en connaissez autour de vous, en fait, des gens?
Est-ce que j'en connais autour de moi?
Qui ont peut-être imaginé ou qui en parlent en se disant, si ça se trouve, on finira par devoir.
Oui. Oui, parce que la situation économique fait que c'est de plus en plus compliqué. Mais...
Merci beaucoup, Jérôme, pour cette entrée en matière dans le téléphone sonne. On en discute jusqu'à 20h avec François de Saint-Gly. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue spécialiste de la famille. C'est vrai ce qu'il dit Jérôme, et c'est peut-être la première raison principale, l'ascenseur social. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'il marche plus exactement aussi fort qu'il marchait autrefois.
Très honnêtement, c'est pas mon interprétation.
Allez-y.
Là, je dis pas que l'ascenseur social marche formidablement, mais dans les cas très précis, donc on a quand même quelques travaux. Ici, c'est surtout le développement du travail de la fin des CDI. Tout le travail précaire fait que, bon, bah, à un moment donné, d'abord,
ça veut dire, quand l'ascenseur social marche pas, ça veut dire que on a plus de mal à avoir des boulots qui sont vraiment successifs et que du coup, on gagne sa vie mieux à chaque fois et mieux que nos parents. Ça dit un peu la même chose que ce que vous dites.
Oui, mais c'est surtout quand même, si on le reprend vraiment, le développement volontaire, d'une certaine façon. C'est une politique européenne que de développer des travaux, de la mobilité, des travaux, des contrats à court terme, de telle sorte qu'en fait, même si d'ailleurs on ne retourne pas chez ses parents, pour une partie des jeunes restent dépendants de leurs parents. Donc, cette politique économique a comme effet, j'allais dire pervers d'une certaine façon, le fait que, ben, en fin de compte, c'est la famille qui supplée la stabilité des entreprises.
Et ce qui est vrai aussi, François de Saint-Gly, c'est que, oui, le marché du travail a changé, comme vous le disiez, effectivement, il y a beaucoup plus de contrats précaires, beaucoup plus de CDD, mais en revanche, l'immobilier qui suit pas, puisque si on n'a pas un CDI, c'est même pas la peine, enfin, c'est très difficile de trouver un appartement, mais les banques qui ne suivent pas, parce qu'on ne prête pas d'argent, etc., c'est aussi deux systèmes qui avance en de guingois l'un par rapport à l'autre, plus de contrats précaires, mais aucune adaptation de la société à côté, au fond.
Non, exactement, puisqu'il y a une redéfinition, en fin de compte, de jeune adulte, puis après même d'adulte, pour une part, ça n'affecte pas l'ensemble de la jeunesse, mais il se trouve, en plus, que ces travaux précaires sont aussi très mal payés. Non, mais je vais prendre un exemple, je crois que c'était à Londres.
Allez-y.
Il fallait faire, c'est tout juste, il n'y a pas des contrats à 1 euro de l'heure. Bon, bah, vous finissez forcément dans votre voiture ou chez vos parents. Non, mais je veux dire. Et donc, il y a une forme de. On a à ce niveau-là, socialement, estimé qu'il pouvait y avoir des gens qui étaient un peu marginaux. On l'a très indirectement, je pense, même si on n'en a pas parlé, par les gilets jaunes. C'est-à-dire, on accepte qu'il y ait des travailleurs pauvres. Ben, ces travailleurs pauvres qui retournent chez leurs parents, qui se logent comme ils veulent. C'est quand même... parce que ça n'est pas simple, hein, quand même, le boomerang.
Alors, j'allais dire, ça doit même être très compliqué. Je le disais tout à l'heure en introduction, il y a quand même il doit y avoir un sentiment terrible de retour en arrière, d'avoir raté quelque chose, d'avoir même raté intégralement sa carrière. C'est bien qu'on s'est pas vécu comme ça, mais c'est évidemment la première chose qui vient à l'esprit. Si je retourne chez mes parents à 40 ou à 50 ans, c'est difficile, hein.
Oui,
super
non,
difficile.
Ça me paraît même dans mentalement.
Bien sûr, impossible.
Pour moi, totalement vraisemblable. Alors, quand on lit les entretiens, en fin de compte, on voit que c'est aussi difficile pour les parents.
Bien sûr.
Non, d'abord parce que certains sont obligés de faire des gros efforts financiers, mais même pour ceux qui ont les moyens, parce qu'en fait, ça vient après ce qu'on appelle dans le jargon, il y a boomerang, mais avant le boomerang, il y a éventuellement le nid vide, c'est-à-dire tous les enfants sont partis. Or, l'expérience montre qu'à ce moment-là...
Mais quand on a 40 ou 50 ans, c'est bon, les parents se sont faits à notre départ,
voilà,
en général.
Voilà, et donc, d'une certaine façon, ils se sont habitués à une nouvelle vie différente. La chambre d'enfant n'est pas une chambre d'enfant.
On n'existe plus.
Voilà,
elle a été transformée
beaucoup de...
en salle de gym.
Et donc, d'une certaine façon, quand l'enfant revient, c'est pas un enfant... On ne sait pas très très bien. Ceux qui sont concernés disent en fait, à la fois, c'est bien entendu nos parents, puis par d'autre côté, on se trouve en statut de colocation. Mais colocation avec ses parents, c'est quand même étrange.
Est-ce qu'il y a précisément des écueils à éviter pour les uns comme pour les autres? Pas reprendre ces bonnes vieilles habitudes d'à l'époque où les enfants avaient 20 ou 25 ans. Donc effectivement, j'imagine qu'on ne demande pas à son fils ou sa fille s'il s'est lavé les dents. Mais il y a quand même, j'imagine, des écueils à éviter pour que cette cohabitation se passe bien et qu'elle soit vécue comme une cohabitation sereine.
Je pense qu'à la différence de la cohabitation naturelle, entre guillemets, quand on est chez ses parents, bon, les règles s'établissent un tout petit peu comme ça, elles sont pas forcées. Là, il faut quand même les préciser, hein, puisque la tentation pour les parents de dire « mais tu n'es pas à l'hôtel puisque tu me préviens pas » et tout. Je pense que les règles, au départ, sont assez strictes, mais peuvent être strictes à la condition qu'elles ne concernent que le fonctionnement strict de la maison. On mange pas à n'importe quelle heure forcément, on fait pas de bruit avec sa musique pour que les parents dorment et tout.
Qu'est-ce que t'as fait de ta journée?
C'est l'empiètement, la difficulté, c'est l'autonomie au sens strict, c'est-à-dire en fin de compte, l'enfant adulte, enfant au sens de fils de ou fille de, comment ça se fait ce matin, tu t'es levé un peu tard, tu ferais mieux d'aller chercher
c'est
du
ça,
boulot,
etc.
ou de ramener parce que c'est après une séparation, ramener régulièrement des filles différentes, si c'est un homme et tout. Et là, faire des remarques sur l'existence, on pourrait dire, personnelle de l'adulte. Donc, il faut trouver une forme de coexistence qui est forcément différente. Mais simplement, juste dans l'imaginaire, en réfléchissant, en fait, il y a une nouvelle peu connue d'André Gide qui s'appelle « Le retour de l'enfant prodigue », 1912, et qui est obligé de revenir aussi pour des raisons économiques, parce qu'il a un peu dilapidé, là. Il a fait son expérience d'une certaine façon, et ça se passe très très mal. Et pourtant, son jeune frère, à la différence de l'évangile, son jeune frère dit « t'es quand même un type formidable parce que t'as essayé, t'as fait sur la route d'une certaine façon ». Et donc, il y a une confrontation entre une expérience qui se termine mal, mais quand même, ça vaut le coup quand même d'essayer de partir. C'est pas sous le prétexte des générations boomerang qu'il faut pas partir de chez ses parents.
Eh oui, absolument. Est-ce que quitte à faire un boomerang après, est-ce que le sociologue que vous êtes conseillerait plutôt, si c'est possible, d'aider la génération précédente financièrement plutôt que de la voir revenir? En fait, est-ce qu'il vaut mieux dans ces cas-là, quitte à aider, que les parents aident financièrement quand le fils ou la fille, comme vous dites, a déjà 40 ou 50 ans, plutôt que de suggérer de venir s'installer dans la chambre d'amis ou sur le canapé?
Je pense que d'un point de vue économique, naturellement, on ne mesure que la forme génération boomerang. Mm-hmm. Mais je veux dire, derrière, il y a plein de solidarité entre cette génération baby boomer et les enfants. Là, il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas négliger, c'est que tout ça n'est pas qu'économique. C'est-à-dire, éventuellement, c'est un homme ou une femme qui vient de se faire licencier en même temps. Quelquefois en même temps, divorcé ou séparé.
Il y a encore des enfants.
Et donc,
il
n'y a pas que la dimension économique. C'est que j'ai lu des récits pour venir. C'est que, en fait, il y a une forme de grande blessure. Mm-hmm. Et pas seulement vis-à-vis des parents, c'est-à-dire une dépression, etc. Donc là, il y a quand même une dimension positive dans le retour chez les parents, c'est quand même la maman cocooning. Si on prend pour boomerang, parce que sinon, si on est tout seul et qu'on n'a pas le moral, j'avais vu des travaux comme ça, bon, notamment les jeunes gens mangeaient quand même des pizzas tous les soirs sur le lit. Non, mais dans des conditions qui étaient quand même eux ne trouvaient pas que c'était le paradis.
Bonsoir Jean-Marc.
Oui, bonsoir Fabienne.
Et soyez le bienvenu sur France Inter, Jean-Marc. On vous écoute, la situation qui est la vôtre, c'est un petit peu ce que décrivait à l'instant François de Singly, au fond.
Oui, tout à fait. En fait, moi, suite à un divorce, j'ai quitté le foyer, j'ai laissé l'appartement à ma femme et à mes enfants. Et j'ai squatté pas mal de canapés de copains, et à un moment donné, je ne pouvais pas trouver de logement, étant en CDD, en contrat court.
Et du coup, ça s'est terminé comment, votre situation à vous, Jean-Marc ?
Et après avoir passé 2 nuits dans ma voiture, je suis retourné chez mes parents. Et je me suis retrouvé non pas dans la chambre d'amis, non pas dans la chambre d'ado, mais dans la chambre des petits-enfants, c'est-à-dire dans la chambre de mes enfants. Et je vous avoue que c'est très, très, très perturbant.
Merci beaucoup. Merci vraiment pour ce témoignage, Jean-Marc, François de Singly. Voilà, Jean-Marc qui se retrouve en gros sur les lits superposés, quoi.
Oui.
Le truc des petits-enfants.
Juste le point positif, d'une certaine façon, je m'excuse par rapport à Jean-Marc, c'est le fait qu'on voit que toutes les procédures de rajeunissement ne sont pas nécessairement favorables, même si on veut pas vieillir. Rajeunir comme ça, alors se retrouver dans la chambre des petits-enfants, c'est effectivement un marqueur complètement déstabilisant pour soi-même. Et puis, la cohabitation entre les générations, faut quand même en parler. Aussi autre chose que le boomerang, c'est que on prend toujours pour des parents de 40-50 ans, voire ses propres parents de 70, 75, 80, 85 qui reviennent à la maison, c'est pas l'enthousiasme non plus, même s'il y a une chambre. Donc ce que je voulais dire, c'était que comme s'il y avait un temps où la cohabitation entre générations est normale et bien vécue, elle s'est un petit peu allongée, on va dire 25, on peut encore aller jusqu'à 30, mais après c'est terminé. Quand on voit les discours des personnes âgées pour ne pas revenir chez leurs enfants, ça ressemble exactement au discours des enfants boomerang.
Bien sûr, et c'est dit que je ne veux pas rentrer.
Et puis si c'est maintenant mes enfants qui me commandent, c'est pas non plus l'idéal.
Précisément, on a cette réaction sur franceinter.fr qui dit « L'émission commence à peine, mais je suppose que vous allez zapper une situation difficile. » Donc non, on ne la zappe pas, on va tout de suite répondre à votre question. « À 68 ans, je suis retournée chez mes parents pour m'occuper d'eux. Ils ont 95 ans, ils sont handicapés, mon logement est trop petit pour les accueillir. C'est donc moi qui dors sur le canapé. Je peux vous assurer que c'est pas amusant tous les jours. » C'est ce que nous dit Christiane. Effectivement, François de Singly, elle a raison. Christiane, là aussi, une situation très compliquée, quelque chose qui s'inverse.
C'est une toute petite. Enfin, quand on prend, c'est pas pour diminuer la difficulté de la situation. Ouais. C'est quand même la forme la moins fréquente de cette génération. Mais c'est vrai qu'à 68 ans, on aurait pu prévoir qu'il y ait même un développement parce que les parents étant plus, les grands-parents là, mais étant plus riches, généralement ont un logement plus grand, je veux dire incontestablement. Ouais. Donc en fait, on pourrait concevoir, si je puis me parler à titre personnel, maintenant mes deux parents sont morts, mais ça me paraît tellement impensable que je retourne vivre chez mes parents, mais aussi pour même prendre soin d'eux, d'une certaine façon, parce que on peut rejouer rejouer son enfance à ces âges-là, ça n'a pas, ça, c'est quand même entre guillemets contre nature sociale.
Voilà. Je voudrais embrasser mes parents qui nous écoutent peut-être, mais je suis bien chez moi aussi. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Cécile, on vous écoute.
Merci, bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler de deux expériences différentes qu'ont vécu mes parents, qui n'ont pas eu de chance, ils ont trois enfants, c'est peut-être pas terminé. Je suis l'aînée d'une fratrie de trois. Donc, avec mon mari, quand on a voulu accéder à la propriété, on n'avait pas les moyens d'acheter un bien clé en main qui correspondait à nos besoins. Donc, du coup, on a acheté quelque chose qui était entièrement à refaire. Et mes parents, en fait, nous ont récupéré, mon mari, mes deux enfants et moi, pendant un an à la maison.
Oula, gros travaux!
Gros travaux, avec mon papa qui a travaillé, qui venait d'être en retraite, donc qui a travaillé pendant un an sur les travaux, avec notre aide, et donc ma maman qui travaillait encore, qui gérait l'intendance, la cuisine, le linge et la garde des enfants. Ça a été très fatigant pour eux, la cohabitation n'était pas forcément évidente parce que tout le monde était un peu sous pression et fatigué, mais ça restait dans un cadre où c'était... dans une situation pour du mieux, ouais, que du meilleur.
Et de toute façon, pas pérenne. Vous saviez que même si ça dure longtemps, vous saviez que ce serait pas pérenne. Et vous avez un frère ou une sœur?
Et alors, j'ai aussi une sœur qui, alors, elle, a eu un bébé il y a bientôt 4 ans. Et puis, quand il avait 7 mois, elle a été victime d'une grave erreur médicale. Et elle s'est retrouvée dans un fauteuil roulant, pendant 2 ans et demi, fort heureusement, elle en est sortie, elle vient juste de reprendre son indépendance. Mais je vous avoue que elle était seule avec son bébé. Si mes parents n'avaient pas été là, je pense que c'est nous qui aurions pris le relais. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je voulais juste appuyer sur une chose, c'est que les personnes qui se retrouvent dans une situation de diminution des capacités physiques, quelle qu'en soit la raison, les moyens qui sont mis en place pour les accompagner et leur permettre de conserver une qualité de vie sont clairement insuffisants. Mmh. Et si je peux me permettre, j'avais juste un exemple en tête, par exemple, dans le cadre de ma sœur. Il lui mettait des personnes à disposition pour l'emmener faire des courses, des choses comme ça, mais il n'avait pas le droit de prendre son enfant avec eux.
Mmh. Donc s'il n'y avait pas eu vos parents, c'était impossible. En fait, comme vous le dites, effectivement, c'est vous qui auriez pris les choses en main. Mais on va répondre, et surtout sur ce point particulier, Cécile, juste j'ai une question subsidiaire sur votre cas à vous. Comment ça se passe, la discussion, avant? C'est-à-dire que vous savez, vous, que vous n'avez pas les moyens de la maison clé en main. Vos parents le savent aussi. Donc ça se passe comment, en fait? Est-ce que vous leur dites, voilà ce qu'on a en tête, est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce qu'il y a un petit côté, pardonnez-moi, un peu fait accompli, genre, s'il vous plaît, aidez-nous, parce que c'est la maison qu'on veut vraiment, mais ça va durer un an. Comment ça se passe, ce moment de négociation avec les parents?
Alors, c'est pas forcément évident. Ça a créé un peu des tensions au sein de leur couple, finalement, parce que mon papa était super engagé et investi, et il a dit « Non, mais c'est une super opportunité pour vous. Je suis heureux qu'on puisse vous permettre de faire ça. » Après ma maman, quand elle a vu le chantier, elle a dit « Ouh là là, mais ça va être très très long, mais vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez pas compte ?» Et du coup, ça a créé quand même un petit choc, mais c'est vrai que quand même spontanément, on n'a pas eu à faire la demande, ils nous l'ont proposé. Et même si, voilà, ça a créé des tensions entre eux, mais j'ai la chance d'avoir des parents formidables.
Visiblement, oui, absolument. Il y a eu combien de délais, Cécile, entre vous et votre sœur, notamment? Est-ce que vos parents ont pu se retrouver avant qu'il y ait l'autre situation très différente?
Eh ben, il n'y a pas eu tant de délais que ça, parce qu'il n'y a eu que 2 ans.
D'accord. Et vous avez une troisième sœur, donc
Alors, j'ai un petit frère qui vient d'être papa, qui va se marier. Bon, on va toucher du bois, on va dire que c'est bon, ils ont fait leur taf, ils ont élevé leurs enfants, 3 de leurs petits-enfants pendant en tout 4 ans. Donc je leur souhaite quand même de pouvoir enfin profiter de leur retraite bien méritée.
Merci beaucoup, merci vraiment pour ce témoignage, Céline. François de Saint-Glis, je vous voyais réagir. Deux situations qui sont très différentes.
Très différentes.
Vraiment intéressantes à chaque fois.
Sur le cas de la sœur, la première, de Cécile elle-même. L'objectif étant quand même un objectif, sans doute que les parents sont eux-mêmes propriétaires, il y a un côté comme une reprise d'études, on se mobilise et tout. La résistance un peu plus grande de la mère, on la retrouve dans des tas d'autres récits qui pourraient être comparables.
Et je voudrais pas faire du féminisme en levant le poing, mais je pense que sa mère savait très bien que les enfants, c'est elle qui allait s'en occuper.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire que normalement, après le nid vide, les femmes se disent, et d'ailleurs, par exemple, elle diminue la qualité de la cuisine, entre guillemets, en disant, bah, si tu veux bien manger, toi, tu peux t'y mettre maintenant et tout. En tant que mère, oui.
À 50 ans, tu dois savoir faire des pâtes.
Et là, d'un seul coup, c'est avec des petits enfants, il a fallu qu'elle fasse des gâteaux, et donc c'est vrai que re-rentrer, c'est pas facile pour les enfants, et donc dans le même temps, ça me paraît tout à fait normal qu'on insiste sur la génération boomerang, mais de l'autre côté, notamment pour les femmes qui ont essayé tant bien que mal de gérer leur double journée, paf, la deuxième journée qui revient, bon, même la solidarité familiale ne suffit pas forcément à rendre la chose agréable. Dans le deuxième cas, qui me paraît vraiment très important, parce que c'est un problème bien plus général même que la génération boomerang. Il y a plein de choses qui se passent d'ailleurs dans la société, c'est qu'on considère que si la personne est handicapée, de toute façon, elle peut pas être indépendante. Rien n'est fait, pas de logements sont prévus parce qu'il faut naturellement pouvoir rentrer dans le logement.
Bien sûr, faut que ce soit même plein
si
pied,
on a
des
suffisamment presque grand. Tous les immeubles ont ont des marches. Enfin bon, c'est des choses qui sont invraisemblables. Donc ici, cette mobilisation d'une sœur handicapée compliquée par la présence de l'enfant, mais j'allais dire d'une certaine façon, du point de vue là des politiques, là c'est un scandale qu'on ne réfléchisse pas sur le fait que les adultes handicapés ont le droit à une vie indépendante et autonome. Du point de vue de la famille, je pense que on se pose pas vraiment la question. L'enfant, enfin je pense que les 99% des parents, c'est un enfant handicapé, c'est comme un enfant gravement malade, je travaille sur les
il y a la solution qui s'impose et la solution imposée au fond qui sont deux choses
et puis c'est pas parce qu'on le fait même avec les familles le font plutôt bien que c'est pas pour autant le fait que les politiques doivent négliger cette question grave.
Bonsoir Laurence.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue Laurence, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci pour vos émissions tout d'abord.
Merci à vous.
Et pour la qualité. Je voulais dire, voilà, j'habite dans le Nord, je suis mariée, on a deux enfants adultes. Mon mari a perdu son travail à une cinquantaine d'années, il avait 53 ans je crois, et après 2 ans de chômage, il a retrouvé du travail mais à la Défense à Paris. Et comme on ne pouvait pas assumer deux loyers, il est reparti vivre chez sa maman qui habite dans les Yvelines.
D'accord.
Donc il vit là-bas du lundi au vendredi soir. Revient donc le vendredi soir à la maison et reprend le train à 5h du matin, le lundi matin. Alors c'est une situation qui est à la fois très bien et très compliquée. Très bien parce que du coup ma belle-mère qui a 87 ans n'est plus tout seule et elle apprécie d'avoir son fils. Mais pour mon mari, c'est très 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 dur à vivre.
C'est quoi le plus difficile pour lui en fait? C'est le retour chez les parents qui est difficile ou c'est la séparation
Alors c'est les deux. Mmh. C'est le fait de ne pas être chez lui. Des fois le week-end il me dit j'ai l'impression de pas habiter dans la maison parce qu'il me dit bah en fait ils sont où les couteaux, ils sont où les voilà. C'est le fait de vivre dans une petite chambre qui était sa chambre d'enfant. Il a quand même 60 ans.
Oui, c'est rude, la chambre d'enfant.
Avec une personne qui a 87 ans, qui regarde pas les mêmes émissions de télé, qui est sourde comme un pot, donc la télé hurle dans la maison, qui n'a pas le même rythme de vie, enfin voilà, c'est compliqué.
Merci beaucoup pour ce témoignage Laurence, on sent bien François de Saint-Gly, pourquoi c'est compliqué, il a 60 ans ce monsieur, et moi j'entends les détails comme les programmes télé qui sont pas les mêmes, la télé qui hurle, enfin on rentre chez soi, on a peut-être envie aussi de se détendre.
Je mettais juste un tout petit bémol sur la télé parce que on a quand même maintenant des doubles équipements, on peut le regarder sur... Non, mais je voulais dire. Mais sa situation m'a fait penser quand même aussi aux couples de marins qui partent. Et en fait, quand ils reviennent, officiellement c'est la fête, les voisines prennent en charge les enfants, et puis au bout de quelques jours, il se rend un peu étranger. Et là, je pense qu'il est un peu étranger chez sa mère, et un peu en disant le coup des couteaux qui a l'air d'être un peu secondaire, mais il se sent à nouveau aussi étranger chez là dans son chez lui, mais au sens avec son épouse et tout. Donc là, on pourrait dire c'est un peu cool parce que bon, la situation simplement un turbo. Et là, d'un seul coup, en fin de compte, il est deux fois étranger. Quand même le fait de quand on est chez enfant, même adolescent, jeune adulte, on est quand même d'abord chez ses parents, avant d'être chez soi. Et donc, d'une certaine façon, dans notre imaginaire, c'est être chez soi et même être chez soi propriétaire constitue absolument, j'allais dire, un peu notre idéal. Et là, d'un seul coup, il se trouve, il avait construit un chez soi et on lui dit mobilité, mobilité. Donc, à chaque fois, on voit quand même aussi derrière, il faut jamais l'oublier, parce qu'à d'autres émissions, je n'attaque la personne, mais d'autres émissions, des politiques vont nous dire, c'est quand même formidable, le développement de la mobilité et tout. Oui. Mais le développement de la mobilité, etc. Ça pose quand même des problèmes. C'est toujours la famille qui, en fin de compte, trinque dans tous ces changements apparemment positifs.
Voilà, parfois, traverser la rue, c'est loin de chez soi. Écoutez ce témoignage qui vient de Anne. J'ai 60 ans, deux enfants de 23 et 25 ans qui n'ont pas encore de travail régulier. Nous envisageons qu'ils connaîtront des périodes de précarité et nous économisons en fonction de ça. François de Singly, quelle est cette période que nous vivons où, effectivement, les parents imaginent bien que les enfants, à un moment ou à un autre, peut-être reviendront ou devront en tout cas être aidés financièrement parce que oui, ce sera compliqué pour eux.
En fait. Oui, et ça je pense que ça participe de manière générale, même si on n'est pas tous directement concernés. Et tout comme on connaît des gens aussi tout autour du rapport, alors plus général, à l'avenir. Parce que s'il y a du boomerang, plus la crise environnementale qui est aussi une crise de l'avenir, je veux dire, on vit dans un contexte qui est quand même quelque chose où on nous inviterait à visiter les musées et puis visiter la chambre d'enfants.
Tiens, ce témoignage qui nous vient également sur franceinter.fr, pardon. Cette situation a été la nôtre, nous raconte cet internaute. Mon mari et moi avons accueilli en catastrophe ma fille de 40 ans et ses deux enfants en bas âge à la suite de l'abandon par son compagnon. Au bout de quelques semaines, nous avons décidé, écoutez bien François de Singly, de prendre un studio pour laisser notre appartement à notre fille qui était dépressive. J'ai visité des dizaines d'appartements à louer. Mais comme elle n'avait pas de bulletin de salaire régulier, elle n'a pas pu trouver un appartement. Il a fallu attendre deux mois avant d'avoir un agent immobilier qui voulait bien offrir nos garanties, puisque ce sont des gens qui avaient 74 et 80 ans, donc déjà très largement à la retraite. Depuis 5 ans, nous payons un loyer de 1850 euros pour 64 mètres carrés à Paris 14e pour elle et ses deux enfants. Elle nous explique ensuite qu'elle est en train doucement de reprendre du poil de la bête. J'aime bien ce témoignage. D'abord, il est émouvant. Et puis surtout, j'ai donné l'appart à ma fille. Et moi, je me débrouille, on a pris un studio à côté. Est-ce que c'est... On est dans le vrai sacrifice, hein, au fond.
Il y a beaucoup plus de sacrifices qu'on ne pense. Mmh. On a l'impression, comme ça, que la famille s'est déglinguée, etc. Ce qu'on voit derrière tout ça, c'est quand même que la famille résiste et la relation par enfant. Ça m'a fait penser aussi, dans certains cas de familles qui ont des problèmes de logement, genre famille monoparentale, il y a trois enfants, il y a deux chambres, eh bien le nombre de personnes, de mères qui couchent sur le canapé pour que quand même, dans la logique du développement personnel des adolescents, ils aient leur chambre, coucher quand même, rentrer chez soi, une journée de travail, on est adulte et on a le canapé, je pense que c'est... J'allais dire, à titre personnel, je pense que ce serait pour moi plus dramatique que même d'être dans la chambre d'enfant.
Vous préférez les lits superposés au lit clic-clac, François de Singly?
Non, c'est bien pas noté. Le lit clic-clac, c'est le fait que c'est pas une chambre.
Oui, c'est le salon, effectivement. Ben oui. Et du coup,
c'est un espace collectif, donc on est même privé d'espace personnel.
Et surtout quand on arrive le matin, que tout le monde commence à s'agacer, chacun a un rythme différent.
Et puis même symboliquement,
etc.
Ça n'a jamais été un espace privé.
Bonsoir Muriel.
Bonsoir.
Vous avez patienté longtemps Muriel, pardon, on vous écoute.
Moi, j'ai une expérience un petit peu différente et je reviens sur le point de vue économique. Moi, j'ai mon frère qui s'est retrouvé donc licencié économique et il était cadre commercial. Il a accepté un autre emploi beaucoup moins bien rémunéré. Il se retrouve avec une rémunération à la hauteur du chômage, en fait, qu'on lui a donné lorsqu'il a été licencié. Et pour se loger, il a opté pour la colocation. Il se retrouve donc locataire d'une petite chambre dans une colocation avec des jeunes adultes, même des étudiants. Et il vit cette situation assez bien parce qu'il a un esprit assez jeune. Mais je veux dire, nous dans la famille, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. Et on se mobilise actuellement pour se dire il va peut-être falloir qu'on récupère le frère de 56 ans qui, nous on n'a plus de parents donc ne va pas pouvoir retourner chez ses parents, mais situation économique très grave en France en ce moment où le niveau de salaire fait que les quincailles ne peuvent plus se débrouiller ou se loger. Quoi.
Mais Muriel, vous dites que vous allez peut-être récupérer votre frère parce que vous trouvez que sa situation quand même en coloc avec des plus jeunes, c'est pas très bon. Ou est-ce que lui trouve ça trop difficile à vivre? Ou est-ce que finalement il n'aura plus les moyens de toute façon même de la coloc?
Voilà, c'est ça. C'est plutôt la troisième solution.
D'accord. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage, Muriel. François de Saint-Guy, d'abord sur le... Alors, on comprend bien que les parents de Muriel et son frère sont décédés, donc il faut effectivement trouver un autre choix. Il y a quelque chose de très, à la fois joyeux peut-être, à certains égards, et très décalé. On a 56 ans et on vit en coloc avec des jeunes qui débutent leur vie professionnelle.
Ça me permet que Muriel m'excuse d'une certaine façon, mais justement, je voulais poser une question, non pas à Muriel en tant que telle, hein, bien évidemment, ni à personne en particulier, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que dans un certain nombre de cas, il y a des frères et sœurs. Mmh. Or, en fait, on voit bien que fondamentalement, le noyau dur de la solidarité familiale, c'est quand même le lien parent-enfant. Mmh, mmh, mmh. Les frères et sœurs peuvent se mobiliser, participer financièrement
et tout.
C'est
parce qu'on a le sentiment que c'est normal que nos parents nous accueillent, je mets beaucoup de guillemets, alors que c'est plus compliqué entre frères et sœurs.
Non, mais exactement. Et c'est quand même intéressant pour réfléchir, parce que le lien fraternel, liberté, égalité, fraternité, est quand même perçu comme un lien formidable, plutôt symbole de la solidarité, puisqu'il a pris le mot solidarité hein, dans la... Mmh, mmh. Dans la devise républicaine, ça a failli être solidarité, on voit que le lien fraternel est un lien qui n'est pas exactement de même nature. Je pense que les parents sont, entre guillemets, et pas pour diminuer leur mérite, mais c'est presque une logique du devoir.
Mmh, c'est ça.
Tandis que frères et sœurs, c'est une logique du volontariat, ce qui n'est pas exactement la même chose.
On a le droit de dire
chose.
À son frère ou à sa sœur, écoute, débrouille-toi.
Même je peux t'aider, je pense pas que les liens soient des liens sauvages, mais aider et prendre chez soi, oui, c'est, je pense, difficile. Il faut, on touche des sujets qui sont quand même...
parfois compliqués, un peu touchy dans les familles. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Allez-y Mathilde, merci. On vous écoute.
Merci beaucoup pour la qualité de vos émissions. On vous le répète souvent, mais je pense qu'on ne vous le répète pas.
Non, mais on aime bien qu'on nous le dise, hein, donc je vous en prie. Tiens, redites-le pour voir.
Alors, moi j'étais à l'étranger, j'avais une carrière professionnelle très épanouissante, très enrichissante et très bien rémunérée aussi. Et j'ai toujours fait le choix de revenir chez ma mère pour l'accompagner. Elle est très âgée. Et ça a été c'est un sacrifice quelque part financier et professionnel. Mais on a grandi dans un environnement rempli d'amour et ça paraît très logique de le rendre quand ils en ont besoin et d'être là et d'être avec eux. Donc pour ma mère, je pense qu'effectivement ça lui convient et donc moi je suis prise par mon environnement comme un paquet parce qu'il y a moi et il y a ma mère. Donc quand j'invite des gens, il y a ma mère, quand je vais dehors, il y a ma mère et mon environnement sentimental doit également composer avec ma mère qui est une personne âgée extraordinaire, toujours de bonne humeur, qui est super et je pense que ce sera le modèle avec les parents vieillissants qui sera de plus en plus le cas de figure.
Mais c'est intéressant, Mathilde, ce que vous dites, parce que à la fois, l'idée que vous deviez le faire, parce que vous aimez énormément votre mère et que c'est comme ça que vous avez été élevée, on l'entend bien, mais on entend aussi à côté le poids que ça peut représenter. Comment vous jonglez, au fond, entre ces deux choses-là?
C'est assez compliqué. J'ai fait ce choix pour le moment. Je vous avoue que même financièrement, j'ai dû diviser mon salaire par 3. Mmh. Donc, c'est très compliqué. J'ai dû prendre un travail à côté de chez moi bon, j'ai eu beaucoup de chance, mais je jongle, je fais comme ça. Je me pose pas trop la question. Mmh. Pour moi, c'était le devoir familial. Et de toute façon, quand j'étais à l'étranger, j'avais trop de remords et trop de... de regrets pour ne pas le faire.
De toute façon, c'est ça, si vous aviez trop de remords et de regrets, de toute façon, vous n'avez pas de regrets de ce choix-là, Mathilde.
Pardon ?
Vous n'avez pas de regret de ce choix-là, de toute façon ?
Non, de toute façon, je ne me pose pas la question, c'est comme ça. Et il faut profiter de ses parents quand ils sont encore, là et leur donner les meilleurs environnements. Je vais pas placer ma mère dans une institution et être dépendante de cela. Donc, c'est comme ça. Et voilà, et j'espère qu'elle, que ça lui permettra de vivre de nombreuses années encore.
C'est tout ce qu'on espère aussi. Merci beaucoup, Mathilde, François de Saint-Gly.
Très joli.
Jamais parce que vous levez le doigt pour demander la parole, vous êtes tout seul, donc vous pouvez y aller.
Oui, c'est vrai. Moi, c'est mon rajeunissement, je me pense à l'école. Mais moi et ma mère, ça, c'est très beau parce que ça veut dire qu'en fait, en tant que personne, Mathilde, même quand justement il y a quelqu'un qui vient la voir et tout, elle est d'abord fille. Mmh. Or, en fait, devenir adulte, dans toute l'histoire de l'Occident, au moins, c'est ne pas de mettre la dimension de fils et de fille d'eux en deuxième assez loin. Et de temps en temps, on peut rejouer. Là, il y a même dans la côté positif. Des fois, je dis ça. À Noël, on est content éventuellement d'aller fêter Noël chez ses parents. Mais là, j'ai plein de récits. C'est incroyable. Imaginez Noël tous les jours. Cauchemar. Cauchemar, on va pas revenir fils et
fille. Et en même temps,
on aime
bien aussi. Enfin, moi, j'aime bien que ma mère me fasse du riolet quand je rentre.
Oui, mais
voyez,
ben
donc
non,
on aime
mais
bien
je suis d'accord
fille.
Parce que vous savez que c'est un petit, c'est une petite période de nostalgie.
Bien.
Mais tout à l'heure, vous avez dit que c'était pas forcément évident si c'était tous les jours comme ça.
C'est sûr. On n'a pas le temps de prendre Géraldine, mais je vais lire sa question. Le fait de revenir chez nos parents est-il souvent un signe d'échec? Et je pense, nous dit-elle, que c'est ça qui rend les choses effectivement plus difficiles. On a un peu évoqué ce sujet. Déjà François de Saint-Gly, mais c'est vrai que c'est difficile.
Ça n'est pas un échec personnel. Ça, il faut le système général de famille plus instable, le divorce est quelque chose qui arrive, le chômage, les contrats courts, la société fait que nous sommes, en tant qu'individus, pris dans cette logique. Et donc, même l'effet boomerang, même s'il est difficile à vivre, est d'une certaine façon, malheureusement, une chose normale dans nos sociétés. Donc, il faut surtout pas, en plus, culpabiliser. Non, c'est ainsi. On peut par ailleurs lutter aussi socialement pour que ça se passe autrement.
Absolument. Merci beaucoup. Merci François de Saint-Gly. Merci vraiment à tous pour vos nombreuses questions comme d'habitude. Et portez-vous bien.